מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. C'est-à-dire qu'à partir du mois de Hadar, dès que le mois de Hadar commence, eh bien, on doit augmenter, intensifier la simcha. Top. Alors, j'ai expliqué que Mishenichnas Hadar, on ne dit pas Kshenichnas Hadar, mais Mishenichnas Hadar. C'est-à-dire que non seulement on doit être joyeux, mais c'est une simcha, c'est une joie qui doit être croissante. Mishenichnas Hadar, à partir du début du mois de Hadar, eh bien, on commence la simcha. Elle doit aller de façon croissante, pas jusqu'à Purim et Pessah. Top. Alors on va expliquer pourquoi et comment. Tout d'abord, Mashma a priori, c'est-à-dire que dès que le mois de Hadar commence, eh bien, on doit, n'est-ce pas, on doit rentrer dans la simcha, dans la joie. C'est-à-dire qu'un être humain, il a cette possibilité, cette faculté de tout d'un coup être joyeux. Bon, d'ailleurs, on voit des fois, tout d'un coup, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Alors ça te donne une extrême joie. Il y a un événement, il y a quelque chose que tu as gagné. Alors tu peux être joyeux tout d'un coup. C'est-à-dire que l'être humain, il a des possibilités, des occasions d'être joyeux tout d'un coup. Alors pareil aussi, lorsque le mois de Hadar arrive, eh bien, c'est une raison pour nous d'être joyeux tout d'un coup. Pourquoi? À cause de Purim, on va expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, nous dit le Rambam dans Ilchot Yesodé HaTorah. Ce sont les bases de la Torah. Le Rambam écrit la chose suivante. Ha'el anichbad v'anora azé mitzvah le'ohavo uliraoto. On dit le Rambam, il y a une mitzvah dans la Torah d'aimer Hachem et de le craindre. Ve'ach yaderech le'avato ulirato. Comment, quel est le chemin à suivre pour pouvoir arriver à l'amour d'Hachem et sa crainte? Be'sha shi'itbonen ha'adam be'ma'asav u'bru'a v'aniflaim agdolim. ויראמן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע את שמו הגדול. Dès que l'être humain il va commencer à voir, à constater, à admirer les créatures extraordinaires que Hachem a créées dans le monde, et il va connaître de par là un petit peu de la sagesse, du génie inouï et infini d'Hachem, eh bien tout de suite, Mashmiyad, tout de suite, il va se remplir d'amour pour Hachem, il va se mettre à louer Hachem et le remercier, et n'est-ce pas, il aura aussi une envie très forte de connaître le nom d'Hachem, de connaître la présence d'Hachem dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous garantit le Rambam que si tu sais regarder la création du monde, ce qu'Hachem a créé, tu peux constater la sagesse extraordinaire, inouïe d'Hachem, et automatiquement, ça peut t'amener à un amour extraordinaire pour Hachem. Pourquoi? Comment est-ce que ça marche? Parce qu'en effet, cet amour pour Hachem, il est déjà ancré en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait détaché, mais dès le départ, Hachem nous a donné cette faculté de pouvoir l'aimer, de pouvoir se rapprocher à lui, de pouvoir le connaître. On a déjà dit plusieurs fois, dans la grammaire hébraïque, le vav, il vient inverser le passé en futur et le futur en passé. Vaïdaber. Vaïdaber, c'est il a dit. Vaïomer, Vaïdaber, il a parlé. Vaïomer, il a dit. Alors qu'en fait, pas qu'on dit Yedaber, c'est un futur, il dira. Vaïdaber, c'est il a dit, c'est au passé. La Torah nous dit Ve'ahavta et Hachem Elokecha. C'est tu aimeras, c'est quoi? Ahavta, c'est tu as aimé. Ve'ahavta, tu aimeras Hachem. Alors là aussi, le commentaire pose la question, comment est-ce qu'on peut ordonner, demander à quelqu'un d'aimer? On aime ou on n'aime pas? Bon, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est le sentiment. Bon, il y a plusieurs réponses à cela. Une des réponses, c'est qu'en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, on peut arriver à Avat Hachem. Une autre réponse dit, ve'ahavta, cet amour qu'on te demande, eh bien, sache que tu l'as déjà aimé. Hachem, déjà depuis la création du monde, il a déjà intégrer, inculquer en toi cet amour de l'homme envers Hachem. Afta, c'est déjà un passé, c'est pourquoi Ve'afta, tu peux aussi le susciter aussi à l'avenir. C'est pourquoi nous dit le Rambam, c'est que lorsque tu vas constater, parce qu'on ne voit pas Hachem, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il a créé dans son monde. Lorsque tu vas constater, regarder, admirer ce qu'Hachem a créé, être fasciné par sa sagesse, par son génie inouï, tu pourras tout de suite retrouver cette situation initiale qu'il y avait auparavant de cet amour pour Hachem et aussi cette envie de vouloir connaître Hachem. Donc, ça c'est une introduction pour dire que pas aussi lorsque le mois de Hadar arrive, eh bien cette simcha qu'on peut avoir, eh bien elle est déjà intégrée en nous. C'est-à-dire que c'est écrit Oz bechedva bimkomo. C'est que la joie, elle réside dans la demeure d'Hachem. Et lorsque Hachem nous a créés, c'est les neshamot, les âmes, viennent d'un monde céleste, d'un niveau très élevé au ciel, elles viennent d'un monde qui est plein de simcha, de joie. Et c'est pourquoi est-ce qu'un être humain de sa nature, a priori, on cherche la joie, on cherche le plaisir. Parce qu'en effet, notre neshama, elle provient d'une source qui est pleine de joie et de plaisir. C'est pourquoi tous les êtres humains cherchent à avoir une vie heureuse, agréable, pleine de joie, pleine de plaisir. Le problème est lorsqu'on va déraper vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est provisoire, tout ce qui n'est pas éternel. Alors que la neshama est spirituelle, alors elle doit a priori être attirée beaucoup plus par tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divin. Mais a priori, c'est une caractéristique positive que notre âme est là de vouloir chercher le plaisir et la joie. Il faut uniquement diriger cela vers une orientation qui est tout à fait spirituelle et divine. Alors quand on arrive au mois de Hadar, eh bien, c'est une simcha qui est déjà ancrée en nous, qu'on peut retrouver si on arrive, n'est-ce pas, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim et prendre conscience de cela pour aussi que ça transforme notre vie quotidienne par rapport à ce qui s'est passé et ce qui peut se passer en nous, ce qu'on va expliquer tout de suite dans notre chaîne. Donc, lorsqu'on lit la Megillah, alors il y a des faits qui sont vraiment, qui nous paraissent tout à fait simples, ordinaires. Et en fait, n'est-ce pas, il y a un grand miracle qui s'est passé ici. La Gemara dit, dans Shabbat Pechet, que les Bnei Israël, Kimu Vekiblu, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah à nouveau. Bien que la Torah a été donnée par Shavuot, il y a déjà 3300 quelques années, mais cependant, il y a environ 2000 ans, à Purim, les Bnei Israël ont encore accepté la Torah. Il fallait l'accepter deux fois parce qu'au départ, Hachem les a obligés. Alors que lors de Purim, eh bien, ils l'ont accepté de plein gré, de pleine volonté. Et Rashi nous dit là-bas, mais Avatanes. Ils ont accepté la Torah par l'amour du miracle qui leur est arrivé. Avatanes. Et la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé à Purim bien plus qu'auparavant? Pendant, n'est-ce pas, des centaines d'années, des milliers d'années, il y a eu très souvent des miracles. Pourquoi est-ce que depuis le don de la Torah, Shavuot, jusqu'à Purim, il n'y a rien eu de si remarquable qui les a fait accepter la Torah de nouveau de plein gré? Il fallait attendre Purim pour qu'ils acceptent de nouveau la Torah de plein gré. Donc, la différence est la suivante. C'est que auparavant, il y avait des miracles. Mais les miracles étaient spectaculaires. C'était le fait de transformer la nature des choses. Comme par exemple, traverser la mer Rouge, que la manne tombe tous les jours, que le pays d'Israël traverse le Jourdain, il s'est fendu aussi, que Yoshua a fait arrêter le soleil dans sa course, etc. Et puis bon, les pierres qui tombaient du ciel dans les guerres de Yoshua, etc. Un tas de miracles. Tous ces miracles-là, c'était la transformation de la nature. C'est-à-dire, Hachem a fait des miracles spectaculaires pour changer les lois de la nature. Alors qu'à Purim, c'était le contraire. C'était un miracle, mais c'était dans la nature. C'est à cela le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash dit, c'est le mizmor qu'on dit à Purim. On dit, Ayelet Ashachar, Zo Esther. C'est quoi Ayelet Ashachar? C'est l'aube. L'aube, et le Midrash nous dit, Zo Esther. Il y a ici une allusion à Esther Amalka. Et le Midrash ajoute et dit que comme l'aube, c'est la fin de la nuit et le début de la journée, eh bien, pareil aussi, la période de Mordechai et Esther, c'est la fin des miracles et c'est la fin des miracles, la fin des prophètes et c'est le début d'une période qui va se conduire selon les lois de la nature sans miracle. C'est ce que dit le Midrash. Ah, c'est un Midrash plia. Parce que, a priori, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on veut ici comparer la nuit à la période qui était pleine de miracles, pleine de névim, de prophètes. Alors que l'aube, la journée commence, une fois que ces miracles spectaculaires se sont arrêtés, une fois qu'il n'y avait plus de prophètes, et que Hachem a commencé à diriger son monde à partir de Mordechai Esther, par une anaga, une conduite, qui était sans prophète et qui était sans miracle spectaculaire. Alors, comment comprendre cela? La réponse est la suivante. À partir de Mordechai Esther, Hachem a montré au monde que sa présence divine se trouve dans ce monde matériel sur terre. C'est-à-dire que, bien que le monde se dirige de façon ordinaire, mais c'est Hachem qui dirige tout. On va expliquer cela. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Mordechai et Esther avec Haman et Achashverosh? Il y a une histoire que vous connaissez bien, mais on va un peu la relater pour mettre le point sur quelques éléments importants. Tout d'abord, on met à mort la reine Vashti. Pas pour une histoire, bon, une histoire plus ou moins banale a priori. Et on va chercher une autre reine, on va trouver Esther. Alors, entre parenthèses, il faut signaler qu'il s'agissait de 127 provinces. Donc, il y avait, n'est-ce pas, apparemment des millions de personnes. Et la seule personne qu'on a choisie, c'était Esther, la jeune Esther, qui, par ailleurs, se cachait. Elle ne s'est pas présentée à la cour royale. Au contraire, elle a voulu absolument se cacher. Mais on l'a trouvée, on l'a amenée, et le roi n'a choisi que elle. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il va nommer Haman. Haman, il l'a nommé Premier ministre. Et, bon, on connaît l'histoire, et Haman commence à s'enorgueillir, voulait que tout le monde se prosterne, Mordechai refuse, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est que Hachem a choisi Esther Amalka, il fallait aussi enlever Vashti pour amener Esther Amalka, pour qu'elle puisse ensuite sauver le peuple d'Israël. Juste avant, il y a Biktan Vateresh, Biktan et Teresh, qui complotaient contre le roi, voulaient le mettre à mort. Mordechai, par hasard, les a entendus, et il a dévoilé leur complot à Esther, qu'il a dévoilé à Achashverosh, et n'est-ce pas, ils ont été mis à mort, et on a inscrit dans le livre, n'est-ce pas, des histoires, des contes de Achashverosh, qu'il a été sauvé par Mordechai, et Mordechai n'a pas encore été récompensé pour avoir sauvé le roi. Donc, ensuite, Haman décide de mettre à mort tous les Bnei Israël, et c'est là, n'est-ce pas, où Mordechai envoie Esther chez le roi, bon, qui, elle, va inviter Haman et le roi pour deux festins qui vont se suivre de façon consécutive. À ce sujet-là, d'ailleurs, dit la Gemara, pourquoi est-ce que Esther, elle a fait deux festins, et uniquement lors du second festin, elle a accusé Haman devant Achashverosh? Alors, la Gemara, elle nomme 16 raisons différentes pour lesquelles Esther a fait cela. On va citer quelques-unes. Alors, tout d'abord, Esther, elle a fait cela pour que Haman s'enorgueillisse encore plus. Parce que c'est écrit que celui qui s'enorgueille beaucoup trop, qui est trop vaniteux, en fin de compte, il va tomber. Une autre raison pour que Achashverosh se mette à douter, est-ce qu'il y a un complot entre Haman et Esther, puisqu'elle a invité que Haman et Achashverosh? Alors peut-être qu'il y a, oui, pas certaines relations entre Haman et Esther, et se mettre à soupçonner Haman. Une autre raison pour que les Bnei Israël n'aient pas confiance en Esther, ils vont se dire, on a une reine Esther qui est des nôtres, qui va nous sauver. Et au contraire, qu'ils aient l'impression que Esther, elle est du camp de Achashverosh et Haman, elle les a oubliés, elle s'est assimilée, elle a oublié de son judaïsme, et que le ministre ne compte pas sur elle pour qu'il fasse une vraie tchouva et des tfilotes comme il faut. Donc, plusieurs raisons, et d'ailleurs la Gemara dit aussi que un des Tanaïm ou Amoraïm a rencontré et lui a un avis. Il lui a dit, dis-moi, dans les 16 raisons que la Gemara a citées, à quoi est-ce que Esther, elle a pensé réellement? Il y a 16 avis qui ont été proposés. Esther, à quelle raison elle y a pensé? Et lui, elle lui a dit, elle a pensé à toutes les raisons. Pour ces 16 raisons, eh bien, elle a en effet fait deux festins et invité Achashverosh et Aman. Top. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre-temps, entre les deux festins, il y a Aman qui s'énerve parce que Mordechai ne se prosterne pas et décide de faire une potence qui a pas 25 mètres de hauteur, 50 amot, et va chez le roi Achashverosh pour lui dire de pendre Aman là-dessus. Entre-temps, Achashverosh, il est intrigué. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, top, j'ai dit Aman, parce qu'en fait, c'est Aman qui a été pendu. Ouais. Mais lui, il avait en effet l'intention de pendre Mordechai là-dessus, en effet. Top. Ensuite, Achashverosh est intrigué par les deux festins que fait Esther, et il perd sommeil, et il demande qu'on lui fasse dire devant lui pas tout ce qui s'est passé dans son palais royal depuis les années passées, et on récite devant lui que Bigtan et Teresh voulaient le mettre à mort, et Mordechai l'a sauvé. Est-ce que Mordechai a été récompensé? Il n'a pas été récompensé. Alors, il demande qu'on amène celui qui est dans la cour royale pour lui demander conseil. Comment récompenser Mordechai? Et qui est-ce qui vient dans la cour royale? C'est, par hasard, c'est Haman. Il voulait dire, n'est-ce pas, de pendre Mordechai. Et bon, Rajon lui demande quelle récompense donner à Mordechai. Haman pensait qu'il s'agissait de lui. Il lui a dit, oui, il faut prendre pas cet homme-là et le promener dans toute la ville avec les habits de roi et le cheval du roi pour dire, n'est-ce pas, Kachaya Sela Ish Ashela Melech Vet Bikarot. De telle façon, on va récompenser la personne qui est aimée par le roi. Et Achashverosh lui dit, eh bien, fais toi-même tout cela à Mordechai. Et puis Aman le fait, comme par hasard, n'est-ce pas, bon, il y a sa fille aussi qui pensait qu'en effet que c'était, oui, Mordechai qui promenait Aman. Et donc elle a appelé, elle lui a versé un seau de poubelle sur la tête, parce qu'il a la migas pas avec le Achashverosh. Et ensuite, Aman, on l'amène au deuxième festin, et tout d'un coup, Esther, elle l'accuse. Et puis Achashverosh, il s'énerve, Haman, il commence à trembler, et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur le lit d'Esther pour la supplier qu'elle grâce de lui. Et Achashverosh revient, et il voit, n'est-ce pas, Haman sur le lit d'Esther, il dit à Gam Lichbosh et Tamalka Babaït, c'est-à-dire que tu viens, n'est-ce pas, tu viens conquérir ma reine dans mon palais royal, et il le met à mort. C'est une histoire, n'est-ce pas, un peu bizarre. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'il y a une certaine coïncidence qui est tout par hasard. Et il fallait que les événements se succèdent et se suivent comme par hasard. Mais en fait, c'est Hachem qui a dirigé tout cela. Comme dit la Gemara, que le nom d'Hachem n'est pas cité une seule fois dans la Megillat Esther. En fait, il est cité plusieurs fois, mais de façon de Rachet Tevot ou alors de Sofet Tevot. C'est-à-dire que on a Yud Kivavke, mais au début de, pas au début de mots qui se suivent, ou alors à la fin de certains mots qui se suivent. Pourquoi? Pour dire que Hachem dirige tout. Mais il a fait des miracles de façon cachée. Pas de façon spectaculaire, mais de façon cachée, voilée, dissimulée.
Concrètement, il intervient Hachem dans cette histoire.
Comment on sait qu'Hachem y intervient?
Ok.
On peut dire que c'est un hasard.
Donc,
alors c'est sûr et certain. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. C'est que il y a beaucoup d'événements qui se passent. Alors c'est écrit que qui est Sharim d'Arkei Hashem, Sadikim Yelchubam, ou Posh Im Ikashtubam. Les chemins d'Hashem ils sont droits. Et bien les Sadikim ils vont les suivre de façon droite. Et les Poshim, les renégats, eh bien, ils vont trébucher devant ces événements, devant ce qui se passe. Ils vont tout interpréter sur la nature. Tiens, même Krat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. Eh bien, beaucoup de scientifiques n'ont pas renié cela, parce qu'il y avait tellement de témoignages historiques qui l'ont vérifié, qui ne pouvaient plus le renier. Mais qu'est-ce qu'ils se sont mis à raconter? C'est un raz-de-marée. Il y a un tas d'incidents ou d'accidents qui se passent dans le monde entier. Et toujours, on va expliquer une façon de l'expliquer selon la science, selon tel événement, selon la politique, selon telle stratégie, etc., etc. On peut toujours tout expliquer d'une façon qui va nous mettre Hachem de côté. C'est vrai. Mais ce que nos sages nous disent, c'est qu'il y a ici un fait qui est très spécial, et celui qui réfléchit, qui se dit, c'est tout de même bizarre que tout coïncide de façon si adéquate, si exacte, si juste et précise. Mordechai se posait la question. Il dit que Esther, qui est une si grande sadéquette, comment est-il possible qu'elle est arrivée au palais royal chez un homme, pas qui est Racha, un goy qui est loin de toute la Torah, qui est enfoncé, n'est-ce pas, dans l'impureté, qui est intéressé uniquement par les plaisirs et l'oiseur toute sa vie. Comment est-il possible qu'on ait pris une reine, si tzadéquette, une fille, une jeune fille, si tzadéquette, dans le palais royal? Et en effet, c'était prévu pour aller ensuite sauver en Israël. On avait dit, dans le dernier cours, on va le répéter encore une fois, que Mordechai avait rencontré Eliaou Anavi. Et lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un décret au ciel ou pas? S'il n'y a pas de décret au ciel, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Achashverosh et Aman, ils peuvent baratiner du matin au soir, eh bien, la veille du décret, ils auront une crise cardiaque ou un autre problème, et puis c'est terminé. Et Mordechai, il était lui plein de émouna, de foi en Hachem, que les événements se déroulent ainsi. S'il y a un décret divin, alors il faut prendre peur, il faut agir. S'il n'y a pas de décret divin, ce n'est pas la peine, on peut aller continuer la vie quotidienne sans être inquiet. Et Eliyahu HaNavi lui a dit, en effet, il y a un décret au ciel d'anéantir tout Israël. Et la Mordechai a pris peur en effet, et puis il a réuni 22 000 enfants de toute la ville. Ils ont commencé à étudier la Torah, faire des tefilotes, faire tchouva. Il a envoyé Esther chez le roi. Ils ont décrété un jeûne de 3 jours et 3 nuits pour tout Israël. Bon, etc. Comme on connaît l'histoire. Ça veut dire que... Et ça, pourquoi? Pourquoi ce décret divin? Parce que 9 années auparavant, les bénis d'Israël ont fait quelques fautes, 3 fautes selon les avis. Une faute, se prosterner à une idole. Seconde faute, ils ont participé au festin de Achashverosh. Et Mordechai les a pris en garde. N'allez pas à ce festin. Et le Midrash dit... Vashtia Kadat Enones, c'est-à-dire que Kadat Shel Torah, c'est-à-dire que Achashverosh a servi à tout le monde ce qu'il désirait. Donc les bénis Israël, ils avaient tous les aliments qui étaient avec la meilleure kashrut. Badat Edachredit, n'est-ce pas, tout ce que tu voulais, tu obtenais. Kadat Shel Torah Enones ont obligé à rien faire. Et Mordechai a compris que c'est ça qui était grave. Parce que lorsqu'on te donne tous les plaisirs de la vie, de façon permise, ça s'appelle Naval Birshut HaTorah. Quelqu'un qui se conduit d'une façon mauvaise, d'une façon dépravée, en cherchant la permission de la Torah. Alors il va sombrer dans les plaisirs et les loisirs de ce monde-là, et il a obtenu la permission de la Torah. Alors c'était une faute, même sans faire de Avera par rapport à la Kashrut, mais c'était une faute de trop être attiré au plaisir de ce monde-là. Et troisième faute, c'est qu'ils ont assisté à ce que Achashverosh utilisait les ustensiles du Beth Amikdash et n'ont pas protesté contre cela. Alors 9 années ensuite, Hachem laisse autant le ministre de faire tchouva. 9 années plus tard, le décret de Haman intervient. Et là, Mordechai savait que ce décret, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas Achashverosh, ce n'est pas Haman qui le décide. Il y a des Averot qui ont été commises quelques années auparavant. Sa Averot, elle monte au ciel. Elles font là-bas un bouleversement au ciel. Ce qui va provoquer un décret divin sur Amisraël. Ensuite, on cherche sur terre un cobaye qui va s'appeler Haman, qui peut s'appeler Paro, qui peut s'appeler Esav, qui peut s'appeler Hitler, Arafat, Hussein, n'importe qui lui va uniquement réaliser ce qui a déjà été décrété auparavant par Hachem au ciel. Ce qu'on doit comprendre. Lev Melachim Vesarim Biyad Hachem. Les hommes politiques, ce n'est pas eux qui dirigent le monde. On a l'impression que c'est eux qui dirigent le monde. Mais c'est Hachem qui dirige le monde et il envoie tel président, tel empereur, tel ministre, etc. pour envoyer tel décret, telle décision. Mais cet homme-là, il est uniquement en train de véhiculer ce qui a été décidé auparavant au ciel.
C'est des pantins, alors.
C'est quoi, c'est?
C'est des pantins, c'est des robots.
C'est des robots, Bédiouk. Exactement. C'est-à-dire que Hachem ne les a pas obligés de faire ci ou cela. C'est-à-dire qu'une fois que le décret a été donné, alors ensuite on va chercher quelqu'un qui lui se propose de faire cela. Hachem n'oblige personne, aucun rachat, à concrétiser un décret qui a été fait auparavant au ciel. Alors, et ce que dit le Rambam, c'est que chaque fois qu'il y a un événement dramatique qui se passe sur terre, eh bien pour nous c'est un appel. Un appel divin du ciel. Pour dire attention, faites tchouva, fais un bilan, réfléchis, c'est pas un hasard. Lorsqu'on dit que c'est un hasard, même si c'est un volcan ou un tremblement de terre, un ouragan, etc., quand on dit que c'est un hasard, le Rambam dit, c'est une façon cruelle de se conduire envers l'humanité. Pourquoi ? Parce que cet événement, tu penses que c'est un hasard, et donc tu ne vas pas empêcher que de tels événements arrivent encore une fois. On doit comprendre que c'est un message d'Hachem, pour nous avertir, pour punir, pour la tchouva, etc. C'est sûr que, je veux dire, tu ne peux pas, on ne peut pas le montrer de façon flagrante à 100%, parce que si c'était le cas, la Bechira disparaissait, il n'y aurait plus de choix de libre arbitre. Si Hachem nous montrait que le décret est divin, et que les hommes politiques, c'est uniquement des pantins, n'est-ce pas, des boubottes, des poupées, des marionnettes, pour réaliser ce qui a été décrété auparavant. Alors, il n'y aurait plus aucun libre-arbitre. Hachem doit laisser une façon naturelle d'expliquer les choses, selon la science, selon la nature, selon la politique, etc., pour en effet nous donner encore un choix. Mais si on réfléchit, on doit se dire, c'est pas un hasard. C'est trop bizarre que ça arrive de façon si juste, si précise, avec telle coïncidence. Et puis, il y a des événements tellement qui se succèdent. Il y a quelques mois, quelqu'un m'avait dit qu'il avait un article dans un journal, ici en Israël, sur une grande page. Makara la olam, olam ishtagia. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Est-ce que le monde est devenu fou? Et là-bas, il te ramène là-bas des dizaines d'événements dramatiques, tragiques, des catastrophes nationales, naturelles, qui sont arrivées dans le monde par hasard. Aux quatre coins du monde, là c'est un raz-de-marée, là n'est-ce pas, c'est la tsunami, là c'est un tremblement de terre, là c'est un volcan, etc. etc. Et puis, c'est-à-dire que c'est des événements qui, je dirais, la fréquence, ces derniers temps, elle est différente qu'auparavant. Alors là aussi, on peut dire, bon, c'est la nature, par exemple, tu peux trouver 36 explications selon la loi de la nature. Mais ça, le problème, c'est que si on va se mettre à tout expliquer, alors on ferme les yeux. Et on oublie que Hachem intervient. Et ce que dit le Midrash, c'est que la période de Esther et Mordechai, c'est les miracles spectaculaires se sont terminés. Il n'y a plus de prophètes. Maintenant, à partir de cette époque-là, Hachem va diriger le monde d'une façon plus ou moins naturelle. D'une façon qui paraît normale. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux et de prendre conscience que c'est Hachem qui intervient. On avait dit que les bénis Israël ont accepté la Torah, juste après cela, Meratzon, de plein gré, mais Avatanes, lorsqu'ils ont pris conscience du miracle qui leur est arrivé. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui empêche l'être humain d'accepter la Torah de plein gré avec sa volonté? Parce qu'on a l'impression, a priori, que la Torah, elle nous prive. La Torah, il y a des centaines d'interdictions. Shabbat, tu ne peux pas bouger. Quand tu veux manger, tu as 36 interdictions. Kacher, pas kacher, etc. Faire la shrita, quel poisson permis, et puis aller vers, etc. Là où tu veux bouger, tu as une interdiction. Tu veux t'habiller, shatnez, on te prive, on t'interdit constamment. Alors on a l'impression qu'on est en train de perdre les plaisirs et les loisirs de la vie. Lorsque le miracle est arrivé lors de Mordechai et Esther, là les Israël ont bien compris, bien saisi que c'est Hachem qui dirige le monde. Que cette histoire, si naturelle, normale, mais si extraordinaire, eh bien elle était dirigée par Hachem de A à Z. Les Bnei Israël sont allés au festin d'Achashverosh parce qu'ils avaient peur d'aller à l'encontre de la volonté du roi. Ils voulaient, c'était comme une flatterie hypocrite. Ils n'ont pas protesté lorsque le roi a pris les ustensiles du Beit HaMikdash parce qu'ils avaient peur du roi. Eh bien Hachem leur a montré que ça ne sert à rien. Que malgré tout, le décret est arrivé de les anéantir. Ce n'est pas ce que tu vas choisir de faire ou de ne pas faire qui va arranger les choses ou qui va empirer les choses. Ce qu'on doit faire, c'est la volonté d'Hachem. Et les ministères ont compris cela. C'est que cette histoire, elle était montée par Hachem de A à Z. C'est pas Mordechai, ni Haman, ni Achashverosh qui ont dirigé. C'est Hachem qui a tout dirigé de A à Z. Et là, ils ont compris que donc, la Torah, elle ne m'empêche pas de profiter du monde. On a visité plusieurs fois, le Gaon Mivilna a dit que quelqu'un qui a volé une somme importante d'argent. Et cet argent, il l'a gardé en fin de compte. Toute sa vie, il a même donné en héritage à ses enfants. Eh bien, du Gaon Mivilna, ça veut dire que cette somme d'argent lui revenait auparavant. S'il n'avait pas volé, eh bien, il aurait gagné, il aurait reçu. Lui, malheureusement, il a choisi de la récupérer par une avéra, par le fait de la voler, et c'est bien dommage. Mais auparavant, il devait la recevoir. C'est-à-dire que ce que tu dois mériter, tu l'auras. Ce que tu ne mérites pas, tu ne l'auras pas. Si cette somme d'argent, tu ne la mérites pas, eh bien, tu vas la perdre. On va te la voler. Ou alors, une vitre va se casser et tu vas payer telle somme d'argent. Ou alors, tu vas faire un accident, tu devras payer telle somme d'argent. Ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est ce que tu mérites. Comme l'avait dit le Stapler dans sa fameuse lettre, que personne au monde ne peut t'ajouter un peu plus de plaisir ou de souffrance, ou t'enlever un plaisir ou une souffrance. Ce que tu devras recevoir, tu l'auras. C'est pourquoi lorsqu'on veut arracher, chiper plus de plaisir, on est en train de pas de vouloir prendre, de vouloir voler, c'est une erreur. Parce que si ça ne te revient pas, tu devras le rembourser. Si ça te revient, alors tu l'obtiendras même sans le voler. Par exemple, dans le travail, c'est très courant que des gens en France, alors bon, se disent que oui, le samedi, le shabbat, eh bien c'est là où on fait les meilleures affaires. Mais là aussi, c'est une erreur. Beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler shabbat ont pu témoigner après quelques mois, quelques années, que même, d'abord des fois, ils ont témoigné qu'ils ont gagné autant d'argent. Des fois, même si tu gagnes moins d'argent, mais tu peux aussi constater que l'argent que tu as gagné, tu le perds autre part. Des fois, n'est-ce pas, c'est dans la santé, des fois, c'est dans tel problème, dans telle maladie, des fois, c'est les affaires qui ne marchent pas. Alors, tu peux gagner d'ici, mais tu gagnes autre part. Ça s'appelle Achizat Enaim, c'est le Satan qui nous ferme les yeux pour nous empêcher de voir que Hachem qui dirige le monde. Les Bnei Israël ont accepté la Torah, mais Ratzon de plein gré à Pourim. Pourquoi? Parce que là, ils ont pris conscience que la Torah, elle ne m'empêche pas de profiter du monde. Ce n'est pas parce qu'on m'a interdit quelque chose qu'il ne peut pas profiter, puisqu'en effet, Hachem, lui, intervient. C'est lui qui dirige les hommes politiques, c'est lui qui dirige les miracles de A à Z. Donc, Hachem intervient non pas qu'au ciel, mais sur terre, dans tout ce qui nous arrive. Donc, c'est pourquoi la Torah ne m'empêche pas de profiter du monde. Et donc, je peux, en faisant toute la Torah, profiter du monde. Et c'est pourquoi cette Torah, on l'accepte de plein gré. Pourquoi nos sages ont instauré la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Le'evanim à Pourim? Il faut, n'est-ce pas, donner de l'argent aux pauvres et aussi amener des cadeaux, des présents à des amis, des camarades. Là aussi, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'une personne ne donne pas de la tzedaka comme il faut? Parce qu'il a l'impression de perdre son argent. Lorsqu'on sait que c'est Hachem qui dirige le monde, et tout ce que tu dois recevoir, tu l'auras de toute façon. Et si cet argent, n'est-ce pas, il te revient, tu vas le récupérer. Si tu fais une mitzvah lorsqu'il faut la faire, tu ne vas pas perdre ton argent, tu vas le récupérer encore plus. Alors c'est pourquoi on a instauré, lorsque les Israël ont pris conscience que Hachem dirige le monde et tu ne perds jamais rien en une mitzvah, de faire la mitzvah, de donner de l'argent aux pauvres et pareil aussi donner un cadeau. Quand tu donnes un cadeau à un camarade, pourquoi est-ce qu'en général on n'aime pas donner de cadeaux? Parce qu'on perd, on a l'impression de perdre dans l'affaire. Si tu sais que si tu ne perds rien, parce qu'en effet tu vas rapprocher les cœurs, tu vas te rapprocher avec lui, tu fais une mitzvah de pouvoir être avec dans des meilleurs rapports, des meilleurs contacts, des meilleures relations, eh bien, au contraire, tu n'as rien perdu ton argent, tu vas le récupérer de toute façon. Maintenant, encore une explication. Il y a une habitude à Minhag de vouloir se déguiser à Pourim. Alors, ce n'est pas par hasard. C'est une source qui est, oui, divine et spirituelle. Pourquoi? C'est pour montrer qu'en effet, eh bien, le monde, c'est un déguisement. On a l'impression que ce sont les hommes politiques qui sont en train de diriger le monde. telle décision dans tel pays. Là, c'est le roi, là, c'est l'empereur, là, c'est le président, là, c'est le ministre qui ont pris telle décision. Et comme si, n'est-ce pas, des milliers, des millions d'êtres humains sont à la merci de telle personne qui dirige le monde, eh bien, c'est faux. Parce que tout ce qui se passe, ça provient au départ d'un décret divin. Comme on l'a expliqué, ce décret divin, il va provenir de notre niveau spirituel. Ça dépend de nos mitzvot, nos averot. Les averot de Israël, 9 années auparavant, ont provoqué un décret au ciel. Une fois que la tchouva a été réalisée dans le Bnei Israël, pendant 3 jours de jeûne et tchouva, etc., eh bien le décret a été annulé. Il est sûr et certain qu'on doit, dans certains cas, utiliser ce qui s'appelle une stratégie politique, militaire, etc., comme d'ailleurs l'ont fait Mordechai et Esther. Esther est allée devant le roi, bon, a fait des festins. C'est sûr qu'il faut user, n'est-ce pas, de ce qu'on s'appelle ishtadlut, d'un effort concret selon les conditions et les circonstances qui se prêtent devant nous. Mais savoir que c'est Hachem qui dirige tout. Ce sont, n'est-ce pas, le décret divin au ciel qui va tout diriger. Et c'est pourquoi on se déguise pour dire, attention, toute l'année, toute la vie, c'est une tarpossette, c'est un déguisement, tout est masqué. Tu as l'impression que cet homme qui dirige, ce n'est pas lui qui dirige. Comme c'est pas, on dit dans la Torah, dans la Gada, « Ulman tisaper bozé mincha et tacherita l'altim mitzraim » C'est qui racontait à nos enfants que Hachem a dit, « Je me suis moqué en Égypte, it alalti. » Pourquoi? Parce que Paro est en train de dire en Israël chaque fois, « Anochi ashelachetrem » Je vais vous envoyer, qui va sortir? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que les enfants? Est-ce que le bétail? Comme si Paro est en train de décider quand ils vont sortir, pendant combien de temps, et qui va sortir. Ça, c'est un amusement, c'est un déguisement, parce que ce n'est pas Paro qui décide. Lorsque l'instant de la sortie de l'Israël est arrivé, eh bien, tout le monde sort, ils ne sont pas restés une seconde de plus, ils n'ont même pas eu le temps de faire pétrir la pâte, pas de faire monter la pâte, et la pâte était matzah et pas hametz. Parce que lorsque la seconde est arrivée de la sortie, eh bien, tout le monde est sorti. C'est pourquoi on se déguise pour dire, le monde c'est un déguisement, c'est les gens c'est des marionnettes, tout dépend uniquement du niveau spirituel du monde entier, de chaque être humain. Le monde, on dit en ivrit, olam. Olam, c'est milachon, elam, ça veut dire c'est caché, c'est-à-dire que tout est caché, voilé, dissimulé. C'est-à-dire que la présence divine, elle est là, mais elle est cachée, elle est voilée. C'est à nous de la voir, de la constater, de la regarder. C'est pourquoi, lorsqu'on se prépare à Purim, le mois de Hadar, eh bien, on doit commencer par la Simcha. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que cette fête-là, c'est là où il y a la présence divine qui s'est dévoilée, qui se dévoile de nouveau à chaque année. Et le Midrash nous dit que les miracles spectaculaires sont comparés à la nuit. On dit Ayelet HaShachar, Esther, c'est l'aube. À partir de Esther, eh bien, c'est l'aube qui commence. Pourquoi? Parce que lorsque les miracles sont spectaculaires, bon, c'est bien beau, mais c'est comparé à la nuit. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce n'est pas très difficile d'avoir une foi en Hachem lorsque tu constates, lorsque tu es spectateur devant des miracles extraordinaires. Au contraire, lorsque tout est voilé, tout est caché, comme dans le miracle de Mordechai Esther, et tu arrives à prendre conscience que Hachem a dirigé tout cela de A à Z, eh bien, c'est là où commence l'aube, c'est là la grande lumière. Parce que lorsque tu arrives à prendre conscience que Hachem est là présent sur terre, Hachem dirige le monde, ça c'est la grande lumière. Le grand nest, le grand miracle, eh bien, c'est de faire un rapport, un contact très étroit entre le ciel et la terre. Que Hachem, il n'est pas uniquement dans le ciel très très haut, très loin, et s'est détaché de la terre, mais au contraire, il est très proche de nous, sa présence, elle est sur terre, c'est lui qui dirige tout. Et c'est d'ailleurs pourquoi le dit le Midrash, que à la fin des temps, après la venue Mashiach, eh bien les fêtes vont être annulées, alors que la fête de Purim ne va pas être annulée. Pourquoi? Parce que les autres fêtes, les miracles étaient spectaculaires. Alors qu'à Purim, le miracle était caché, voilé, dissimulé. Et de ce miracle-là a été découvert, démontré que Hachem dirige le monde dans sa présence divine dans ce monde-là. Et cette notion-là, elle va être encore plus augmentée, intensifiée lorsque le Mashiach viendra. Parce qu'en effet, on va sentir constamment que Hachem dirige le monde, même dans tous les petits domaines, éléments matériels, c'est Hachem qui dirige tout de A à Z.